Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode de La Forêt des Possibles de 2026. Nous sommes le mercredi 14 janvier en direct au 88.4 et cet épisode est à retrouver en streaming sur Spotify et sur Deezer. On ne vous la présente plus, La Forêt des Possibles met en valeur les acteurs et actrices des transitions écologiques et sociales de Marseille et de sa région. Seuls, nous sommes comme paralysés par l'immensité des questions et des enjeux de notre époque. Impuissants. Mais ensemble, et bien coordonnés, nous formons tout un écosystème de propositions, de projets, de personnes et de valeurs. Une forêt des possibles qui incarne déjà le monde qui vient et tel que nous le souhaitons. Et surtout, qui vous invite à y prendre votre juste place. Car oui, il y a aussi un monde qui vient tel que nous ne le souhaitons pas. Du tout. Celui des empires et de la prédation, de la loi du plus fort et de la lutte de tous contre tous. Celui du monde de Donald Trump qui enlève des dirigeants de pays souverains au Venezuela, qui menace directement d'annexion territoriale ses alliés au Groenland et qui tue ses citoyennes qui s'opposent à ses milices militaires de l'ICE avec René Nicole Good. Dans la vraie vie, les forêts et leurs racines retiennent les eaux de pluie et évitent les inondations comme ce torrent de boue du totalitarisme qui monte. Dans nos imaginaires collectifs, les forêts ont toujours été des hauts lieux de résistance et de réinvention dans les marges. Ne disait-on pas en 1943 qu'il fallait prendre le maquis ? Et Simone Veil, alors que l'Europe coulait sous les bottes des nazis, ne préconisait-elle pas l'enracinement comme besoin fondamental de l'être humain ? Difficile de ne pas mentionner l'actualité quand tout bascule, même si elle semble complètement nous échapper. Du moins, nous ne voulons pas faire comme si de rien n'était et que nous n'avions rien à y faire. Alors ce soir, nous recevons Thomas Lecy, cofondateur de Safacilite, qui, comme son nom l'indique, vient au soutien de projets qui œuvrent au bien commun. Nous parlerons de projets concrets et de ce que nous pouvons faire à notre échelle pour prendre notre juste place et ne pas nous laisser emporter par la furie de l'histoire. Il est plus que nécessaire important de relier le moi, le nous et le tout, car aujourd'hui, plus que jamais, il nous semble important que nous fassions forêt, que nous nous inspirions du vivant et de ses myriades de connexions et d'hybridations pour répondre à nos besoins et continuions à vivre en paix, dignement et, souhaitons-le, de manière heureuse. Comme les petits rhizomes qui font les liens au sein des grands mycéliums, les facilitateurs mettent de l'huile dans les rouages pour faire advenir un monde meilleur. Je suis Marin Moffret et ai le plaisir de te recevoir ce soir, Thomas. Bienvenue sur nos ondes.
Merci beaucoup de me recevoir, Marin.
Bonsoir Thomas, et alors pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien nous avons un cheminement assez classique du moi au nous et du nous au tout qui invite les auditeuristes à nous rejoindre et à s'engager, se dire bah moi aussi peut-être que je me pose les mêmes questions que l'invité, moi aussi je peux mener des projets et peut-être que c'est pas ce projet tout seul qui arrivera à transformer le monde mais que ensemble eh bien nous arrivons à faire tout un écosystème. Et donc on va commencer à te présenter toi Thomas. Quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé d'un moment de bascule, d'une prise de conscience entre une vie professionnelle avant où tu étais ingénieur agronome et que tu faisais du conseil et puis un moment où tu t'étais questionné sur le rapport de ta place. Je te laisse peut-être nous présenter avec tes mots et plus en détail ce cheminement.
Ouais, ça me ramène quelques années en arrière. Et pourquoi est-ce que ça me paraissait pertinent d'aborder ça? C'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'interviens dans l'écosystème associatif de l'ESS, mais qui a encore quelques années, c'était un monde auquel j'étais étranger et qui était étranger pour moi. Ça a pris du temps pour que je fasse cette transition, mais en effet, le réveil de base qui a pas été soudain, mais qui s'est, je pense, construit dans le temps, ça a été surtout cette prise de conscience d'un statut de privilégié, tu l'as dit, déjà celui d'être ingénieur, donc d'être éduqué, au-delà d'être un homme français blanc, fils de CSP+, une personne en bonne santé, qui n'a pas de handicap. Moi, j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que j'avais tous les as dans ma main et que le point de bascule, ça a été... déjà de pas me sentir bien là où j'étais, mais surtout de qu'est-ce que j'en fais de ce jeu que j'ai en main. Est-ce que je l'utilise simplement pour moi Et mon bénéfice est le fait que, bon, ok, je me sens bien et les choses roulent pour moi. Ou est-ce que je fais en sorte que cette chance, ce privilège que j'ai, il serve d'autres personnes ou d'autres causes que moi. Et ça, ça a été un peu le point de départ. J'étais vraiment très... J'avais aucune idée de ce qui allait suivre, mais en tout cas, c'est ça qui a mis en action ce mouvement vers un questionnement professionnel et un questionnement de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au tout.
Merci pour cette réponse. C'est quelque chose qu'on aime bien présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, de se dire en fait comment, par où ça commence, comment est-ce qu'on bascule, comment est-ce qu'on se met en mouvement. Et quand on préparait l'émission, tu me disais que c'était pas venu par la prise de conscience de l'anthropocène, d'un potentiel effondrement, même si tu avais une conscience un peu latente, m'as-tu expliqué, du fait d'être ingénieur et donc d'avoir bien conscience de tous les enjeux qui concernent le système Terre. C'était quoi le sentiment que tu avais au fond de toi, le fait de pas se sentir à ta place, comment ça se perçoit?
C'est difficile de s'y reconnecter, sachant qu'aujourd'hui je m'y sens davantage, donc me remettre dans cette situation, je pense que c'était quelque chose du quotidien, un peu d'être à contre-courant de ce qui m'était demandé, des missions que j'avais, des personnes aussi avec qui j'étais en relation, qui étaient sur des... manière d'être, des manières de fonctionner, où je sentais que, au-delà de pas être fluide, c'était carrément que ça grinçait, quoi. Et j'avais beaucoup de mal dans les relations humaines que j'avais à ce moment-là, parce que je sentais qu'ils correspondaient pas à moi, ma façon dont j'avais envie d'aborder ces relations, et aussi tout simplement les thématiques que j'abordais dans mes missions de conseil, ou etc., qui, quand je les regarde a posteriori, n'était là que pour finalement servir des personnes qui étaient déjà très bien loties sur des aspects qui étaient très financiers, productifs, etc. Mais ça, en fait, je suis en capacité de le dire aujourd'hui a posteriori. Sur le moment, en effet, c'était vraiment un sentiment de pas savoir pourquoi se lever et surtout d'être en conflit et en tension un peu permanente sur ce que je faisais, mais sans trop savoir... sans trop savoir pourquoi. C'est ça qui a motivé mon départ, où je me suis dit, en fait, je vais partir de cette situation. J'ai aucune idée de ce que je vais faire derrière, y compris ce que je fais aujourd'hui, qui m'aurait paru probablement lunaire à l'époque. Mais c'était ça, le truc de base, c'était je vais me donner le temps de me poser la question, quoi. Je ressens qu'il y a quelque chose, mais il va falloir laisser ça s'exprimer.
Un peu comme finalement, et on en parlera après, quand tu fais de la facilitation, tu pars d'un endroit où c'est pas fluide, quoi.
Ouais, complètement.
Et alors, qu'est-ce qui t'a amené progressivement à vouloir être un passeur, un facilitateur ? Là, avant de parler vraiment de ce que c'est, restons sur tes aspirations personnelles là-dessus.
Ça a été un parcours qui m'a permis de me rendre compte de cette sensibilité que j'ai à cultiver des relations humaines, à être dans des relations de pied d'égalité. Là où, à contrario, dans le conseil, j'étais censé être placé dans une position de force, d'expertise, de sachant, que j'ai compris ensuite que j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et c'est vraiment cette prise de conscience-là. Et aussi, du coup, ça allait de pair avec cette maturité que j'ai eue sur des enjeux écologiques, sociétaux, où l'envie d'agir a commencé à émerger. Sauf que j'avais pas forcément un sujet de prédilection sur lequel j'aurais pu développer un projet, m'engager ou rejoindre. Et du coup, j'ai essayé de connecter ça à mi-chemin en me disant « Ok, en fait, je me rends compte que je semble avoir une sensibilité à l'accompagnement humain des personnes, des projets. Et en même temps, j'ai envie d'agir. » En fait, moi, mon raccourci, ça veut dire ma manière d'agir, ça va être de mettre ma pierre à l'édifice en accompagnant les projets qui en ont besoin, et par là, de manière indirecte, d'y apporter un petit peu de moi, ou en tout cas d'avoir mis quelque chose qui aura permis encore à nouveau de fluidifier un projet et peut-être de le rendre plus robuste, plus pérenne, ou tout simplement que la personne qui le porte soit plus à l'aise avec ce qu'elle fait, quoi.
Et alors, est-ce que ça te rend heureux d'avoir fait cette bifurcation?
C'est... Enfin, maintenant, j'en suis presque à me poser la question de ce qui a été le point de départ qui m'a amené dans un premier temps dans ce passé déjà professionnel qui me paraît être aujourd'hui être une autre vie quasiment. Enfin, et là aujourd'hui, oui, je m'accomplis, je trouve du sens et surtout je trouve un intérêt. Je sais que j'apporte quelque chose en fait, que quand j'ai cette envie, que quand j'interviens auprès de quelqu'un ou d'un projet, potentiellement cette personne en reparte un petit peu changée, à quelque niveau que ce soit, et que ça, à partir du moment où je le constate, ben ouais, je suis heureux d'avoir pu provoquer, fluidifier ça, cette transition ou ces apprentissages ou cette manière de voir les choses différemment.
Je pense que c'est important de le dire. Parce que pour celles et ceux qui regardent la bascule écologique et des enjeux de justice sociale, ça peut souvent être perçu, pour ceux qui comprennent pas ces questions, ou pour qui il y a des craintes et des verrous, comme un truc d'Amish, une écologie punitive, quelque chose qui va à l'encontre de la souveraineté, un truc de branleur, etc. Alors que finalement, c'est une forme de quête de soi. C'est une quête de sens et de raison d'être personnelle. Après, toi, tu l'as fait pour toi, puis finalement, tu l'aides aussi pour les autres à questionner la question du sens et de la raison d'être. Je pense que c'est important d'emporter le discours par rapport à l'introduction que je faisais, de se dire, mais en fait, ce monde-là, et peut-être qu'on ne sait pas où est-ce qu'il nous amène, mais au moins, c'est un cheminement qui rend heureux parce qu'on va vers une quête qui résonne en nous.
Ouais, et puis moi j'ai souvent l'habitude de dire que avant d'accompagner des projets, j'accompagne des personnes ou des collectifs, mais derrière il y a des personnes, et que ça me semble être la porte d'entrée, que de vouloir accompagner un projet, en fait au bout d'un moment il va nécessairement falloir se reconnecter aux personnes qui les portent. Qu'est-ce qui les a amenés à développer ce projet, qu'est-ce qui elles les prend au trip, elle, pour ce projet-là, et qu'est-ce qui font que c'est les personnes pour porter ça, et où mettre ça de côté, se concentrer uniquement sur peut-être des aspects opérationnels, ça peut avoir un sens à certains moments, mais il y a toujours la nécessité d'arriver à s'y reconnecter. D'où l'utilité, par exemple, de fait que tu définisses des raisons d'être. Mmh. Pour moi, c'est souvent ce qui permet de faire le lien entre les deux, de quand on se perd dans du faire, dans de l'opérationnel, dans du terrain, etc. Bah, la raison d'être, c'est souvent le point pour se reconnecter à son élan de base, l'élan du projet, qui a priori a été défini, là, par le coup, par des personnes, en fait.
Et c'est le moment de rentrer sur la deuxième partie, celle du passage des personnes pour aller vers des projets collectifs qui sont faits par celles et ceux qui y mettent la main à la pâte et le cœur à l'ouvrage. Ça facilite, c'est le nom de... C'est pas une structure de ce petit collectif de deux personnes que vous formez. Avec Alice, son nom de famille, c'est ?
Étienne.
Avec Alice Étienne, ça facilite, ça parle de facilitation. Qu'est-ce que c'est que la facilitation ?
La facilitation, il y aurait probablement 1000 réponses à donner, mais donc je vais donner ma réponse à ça. Pour moi, ça part d'un point de départ que... les personnes auprès desquelles j'interviens, elles ont collectivement déjà les clés de connaissances, de compétences ou d'expertise nécessaires pour répondre aux questions ou aux difficultés auxquelles elles font face. Mais la facilitation, ce que ça va venir amener, c'est une structuration, un cadre qui va donner les moyens à ce groupe un instant T, d'atteindre ce qu'ils poursuivent en termes d'objectifs, en fait, de définir de nouveaux projets, s'organiser ensemble d'une manière plus pertinente, définir une raison d'être, parce que j'en parlais tout à l'heure. Et du coup, c'est certes des outils, mais c'est avant tout une posture où moi je viens, en tant que facilitateur, facilitatrice, on vient avec une posture d'humilité et de non-sachant. Très souvent, j'interviens sur des structures qui ont des actions que je ne connais pas, en tout cas pas dans les détails. Mais finalement, moi, je suis pas là pour intervenir sur le fond. C'est eux qui connaissent leur sujet. Pourquoi est-ce que ce projet existe? Comment il faut le mettre en œuvre? Par contre, il y a peut-être des difficultés à Penser à prendre de la hauteur, souvent il y a vraiment cet aspect de prendre du recul parce qu'on est le nez dans le guidon, parce que on est dans le fer et dans le terrain, et c'est amener un temps, amener un cadre, de la structure et aussi une posture accueillante avec la conviction que les personnes ont déjà entre les mains ce dont ils ont besoin pour répondre à ça. Par contre, ben ça va venir aider l'expression et la mise en œuvre de ces aspects pour répondre à la difficulté auxquelles ils font face. J'ai du mal à le préciser parce qu'en fait, ça peut répondre à tellement de sujets différents que c'est ça qui me fait un peu tourner autour du pot.
Et bah justement, parce qu'effectivement, alors je vais me positionner là-dedans. Tu m'as accompagné il y a quelques temps. Alors, tu n'as pas été sur un accompagnement de longue durée parce que ce n'était pas toi mon accompagnateur à ce moment-là. Mais quand La Forêt des Possibles était incubée chez Intermède, qui est au bout du couloir, ici à la friche de la Belle de Mai, tu étais intervenu. Moi, un des trucs qui m'avait vachement marqué, au-delà de la transmission, c'était effectivement la posture et une énergie très positive, de confiance que tu avais instaurée dans le fait de croire en nous, surtout quand on est au tout début du chemin. Mais le mieux, je pense, c'est que tu donnes des exemples. Parce que moi qui étais entrepreneur en démarrage, jeune pousse, eh bien, je sais ce à quoi ça correspond. Mais peut-être que des personnes qui nous écoutent, elles, ça peut leur sembler un peu abstrait. Donc peut-être donner un exemple d'une situation concrète que tu as pu accompagner et puis finalement par rapport à cette situation, bah comment t'es intervenu?
Sur de l'individuel ou plutôt du collectif du coup?
Prends le premier exemple qui te semble, on pourra prendre les deux, l'un puis l'autre.
Je pourrais prendre peut-être l'exemple de quelque chose que j'ai en ce moment. En l'occurrence qui est un accompagnement pour le collectif Varois pour l'agriculture urbaine. C'est un collectif qui représente, je crois, une vingtaine ou 25 structures du territoire Varois qui ont des projets pour promouvoir et développer l'agriculture urbaine sur tout le territoire et que j'ai accompagné donc déjà dans un premier temps l'année dernière sur la définition d'une raison d'être. Et sur un travail là qu'on a entamé la semaine dernière sur la structuration de leur gouvernance collective. Et là, par exemple, ben la demande de base en fait, c'est que t'as un collectif qui est quasiment 100%, enfin qui est 100% bénévole depuis des années, mais qui pour autant met en place des projets d'envergure, notamment c'est surtout les 48 heures de l'agriculture urbaine à Toulon, mais aussi d'autres projets, donc des choses quand même qui demandent de l'opérationnel, enfin beaucoup de temps de travail tout simplement, et qui aujourd'hui arrive à un stade où il y a des ambitions, mais il y a aussi potentiellement un épuisement ou une saturation des personnes qui portent le projet, autant la fondatrice que des personnes qui interviennent. Et derrière, moi quand j'ai quand on me fait cette constat et que
c'est eux qui sont venus te voir là.
Ouais, c'est ça, ouais, par recommandation, par quelqu'un qui était déjà intervenu sur des aspects plus d'outils collaboratifs avec eux. Et il y a toujours en fait une phase déjà où on a besoin de cadrer. En fait, les gens viennent avec une demande qui est plutôt un constat, qui peut être un ressenti du « on est débordé en tant que collectif », etc. Mais ça constitue pas une demande en soi. C'est plus nous, la première étape, ça va être vraiment de traduire ces ressentis en justement... et là, on fait déjà un peu du boulot en amont même de notre intervention, c'est d'aider des personnes à clarifier leurs besoins et du coup à clarifier sur quoi est-ce qu'il va falloir se pencher de manière collective pour sortir de cette situation qui est désagréable, qui est pesante, etc. Et oui, et moi, dans cette phase-là, en fait, à aucun moment, je me mets comme juge de, en fait, d'expliquer à ces personnes de quoi elles ont besoin. Est-ce que c'est justifié de vouloir explorer ces sujets-là? Moi, je fais confiance. Si d'après vous, ça va passer par ça, le développement de votre projet ou son mieux-être, ok, partons là-dessus. Et moi, je vais essayer de mettre en œuvre des outils, des déroulés qui sont adaptés à ce collectif spécifiquement. Là, par exemple, en l'occurrence, je l'ai expliqué, une contrainte de temps et disponibilité très forte. qui a fait qu'on a dû organiser un temps où il n'y avait pas la totalité du collectif, mais on a mis en place des choses pour recueillir l'avis des personnes qui étaient absentes à un autre moment. Enfin voilà, dans une démarche en fait de s'adapter et d'apporter les outils, d'apporter la possibilité à tout le monde de s'exprimer aussi, malgré le fait qu'on soit présent ou non. Et une fois que ça est fait, moi, quand je commence quelque chose comme ça, j'ai absolument aucune idée de sur quoi on va terminer, quels vont être les résultats. En l'occurrence, par exemple, cette journée sur la raison d'être, à la fin de la journée, on n'est pas arrivé sur une raison d'être. Par contre, on était arrivé sur 3-4 propositions et en fait, on en était là où on en était. Et ce qui a été encore génial et que j'avais pas prévu, c'est que finalement, ces propositions, elles ont été proposées en assemblée générale et elles ont été débattues à ce moment-là. Ça, je l'avais absolument pas prévu, mais je trouve que c'est encore plus génial parce que le collectif s'est emparé de ces différentes possibilités et sans intervention de ma part, en fait, collectivement derrière, il s'est passé quelque chose qui leur a permis d'atterrir sur quelque chose qui leur parlait, qui leur correspondait et qui a été rassembleur en fait.
Tu disais que ton expertise, c'était pas d'apporter de l'expertise, c'était d'apporter du processus. Donc tout à l'heure, on parlait de fluidité pour toi. Finalement aussi, là, c'est apporter de l'huile dans les rouages pour que ça coule dans son lit.
Ouais. Et pour faire référence à ce que tu parlais en termes de confiance. Ouais, il y a ce truc où, oui, j'essaie toujours d'avoir confiance dans le processus, en fait. C'est de me dire, le processus, il va nous amener là où il nous amènera. Des fois, on va pas là où on avait prévu d'aller, où on n'a pas les résultats exactement qu'on voulait. Par contre, moi, j'ai toujours une vision que le point où on est arrivé, il est révélateur d'autres choses, en fait. C'est que si, finalement, on a enclenché tout un processus qui nous permet pas d'arriver, finalement, à avoir... exactement défini le projet qu'on avait prévu, peut-être que c'est révélateur qu'en fait il y a d'autres choses à aller questionner dans le collectif, à remettre en question pour arriver à ce résultat, par exemple.
Et à titre individuel, tu disais que tu faisais ça aussi tout à l'heure quand tu me demandais parmi les deux exemples que tu voulais donner.
Ouais, et du coup, moi je prendrais bien ton exemple.
Allez.
Parce que je sais que ton vécu au sein d'Intermed, il me semble, de ce qu'on en a partagé, c'est que tu avais peut-être l'impression que le projet que t'amenais à Intermed était peut-être pas trop dans le cadre de cet accompagnement, des projets classiques qui étaient accompagnés. Et que pour autant, moi, ça m'est arrivé plein de fois dans des parcours de faire des projets où les gens se considèrent atypiques et où des fois, en fait... concrètement, ils le sont par rapport à la trame d'accompagnement qui a été prévue. Et c'est là qu'il y a de l'intérêt après à travailler en individuel parce que c'est un espace où justement on va pouvoir laisser s'exprimer les spécificités d'une personne, d'un projet, et de faire en sorte qu'on sort un peu des processus classiques d'accompagnement. Et là, on peut plus laisser de la place à la personne, sa vision, les outils et la manière qu'elle a de penser, parce que souvent aussi, ces parcours-là, ils t'imposent une manière d'aborder les choses. Tu vas faire un business plan, tu vas faire un plan financier, etc. Mais il y a des personnes qui fonctionnent pas comme ça, en fait, tout simplement. Et moi, je trouve que souvent, ça a été un des ressorts qui était intéressant dans ma mission d'accompagnement, c'est surtout de voir qu'est-ce qui parle à la personne, en fait. Et souvent, moi, ça m'est arrivé de dire à des personnes, mais en fait... Ok, ça marche pas en fait. Le business plan, etc., c'est pas pour toi. Peut-être que toi, c'est peut-être plus. T'es plus dans la team des personnes qui ont besoin d'aller sur le terrain et ensuite, on va voir ce qui vient, quoi. Donc, ton business plan, pour le moment, range ça dans un tiroir, va sur le terrain et vois ce qui vient et peut-être que tu reviendras là-dessus après. Et souvent, parce que dans ces parcours, et je sais pas si toi, c'était le cas, mais. On propose un chemin tellement tracé que moi, j'ai vraiment eu un vécu où pendant des fois 3 mois, on coupe vraiment la personne de pourquoi elle est là avec son projet. On lui demande de faire des Word, des Excel, des pitch, 1000 choses. Et souvent, cette personne, elle se retrouve à pendant 3 ou 4 mois, elle fait pas le truc qui l'apporte dans son projet. Moi, j'ai vraiment eu quelqu'un d'Intermed qui m'avait partagé. Elle avait un projet en lien avec la couture. Et au bout des 3 mois d'accompagnement, elle nous a dit « ça fait 3 mois que j'ai pas touché une machine à coudre ». Moi, ça me questionne, tu vois, quand tu accompagnes des personnes, mais que tu les mets dans une position qui les déconnecte de leur projet, où on se déconnecte de l'élan même de base du projet, tout en nous demandant de structurer les choses, de répondre à des questions très précises, etc. Et donc, notamment, dans le parcours d'accompagnement et dans une posture qui est adéquate, c'est aussi de savoir sortir de la voie qui a été tracée pour faire en sorte que la personne, elle passe aussi par des méthodes, des ressorts ou des moyens, des manières de réfléchir qui lui correspondent.
Bah, c'est sûr que ça résonne ce que tu dis, parce que la forêt des possibles... En tant que fondateur, j'ai été multi-accompagné et donc j'ai pu voir aussi différentes postures et puis un moment des matchs aussi entre des personnes. Est-ce que ça match ou est-ce que ça match pas? En l'occurrence, CCI, Intermade, Inco et le réseau des Skik et des Scop. Donc j'en ai vu un certain nombre. Il est vrai. Je donnerai aucun nom. J'ai rien à. Il y a rien de revanchard dans là-dessus, mais il y a des personnes avec qui ça a mieux matché qu'avec d'autres. Et notamment sur l'espace qui m'était laissé. C'était que j'arrivais avec un truc qui était complètement une explosion mentale de plein de choses qui étaient un peu tentaculaires. Et mon expérience intermède, ça a été de me faire rentrer dans des cases. Hop, il faut que tu rentres dans telle case. Ce qui avait quelque chose de très frustrant. Et je trouve que là où il y a eu une vraie capacité, c'était soit de faire le lien avec les accompagnateurs. J'ai eu des accompagnateurs avec qui ça matchait pas. En fait, je sentais qu'ils comprenaient pas ce que je voulais dire. Donc moi, j'étais frustré et c'était hors de question que je lâche ce que j'avais dans le cœur. Et en même temps, je sentais qu'ils voulaient me transmettre des choses et que c'était pas pour mal faire qu'ils me disaient ça. Donc il y avait vraiment ce lien de confiance. Et quand qui s'est fait ou qui s'est pas fait. Et puis après, je vais rendre hommage à Arthur Fournereau, qui aujourd'hui est notre trésorier d'association, mais qui à l'époque était celui qui m'a accompagné avec Inco, qui était aussi un grand ami et qui pour le coup m'a laissé cette place là, de dire ok, bon bah tu sais quoi, mène ton truc et puis on verra où est-ce que ça ira. Mais je voulais t'interroger sur la question du risque, parce que quand on est entrepreneur, on prend des risques. Et on doit passer son temps aussi à jongler avec un certain nombre de risques en disant celui-ci j'accepte de le prendre, ce risque financier, ce risque juridique, ce risque sur le temps, ce risque sur la relation. Il y a tout un tas de choses qu'on comprend. On peut avoir le sentiment d'être les seuls à les prendre et donc ça peut aussi avoir quelque chose d'isolant parce que quand on prend un risque, on a une attente aussi qui peut se former à côté. Et le rôle d'un accompagnateur, ça va être aussi de nous accompagner à savoir jongler entre ces risques-là, mais sans les prendre. Finalement, ça reste la personne qui entreprend, qui prend le risque ou pas. Comment tu te positionnes sur ça?
Ouais, je trouve que ça questionne beaucoup la posture d'accompagnement. Parce que la notion de risque, il y a celle qu'on perçoit en tant que porteur ou porteuse de projet, mais il y a aussi et beaucoup, surtout, toutes celles qu'on va projeter sur nous, en fait. Notre entourage, nos amis ou même les personnes qui nous accompagnent. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'important quand on est accompagnant, c'est de savoir, pendant qu'on accompagne, s'observer aussi dans ce qu'on fait. Et qu'en fait, quand j'interroge quelqu'un sur le risque financier, est-ce que je l'interroge sur ce sujet parce qu'il y a objectivement des indices qui nous montrent qu'il y a un sujet sensible là-dessus, ou est-ce que je l'interroge parce que moi, en me mettant à sa place, ça me ferait flipper? Et du coup, je me dis, waouh, c'est chaud le risque financier. Et du coup, voilà, pourquoi est-ce que je pose cette question? Est-ce que c'est moi qui juste fais un transfert de mes craintes et de mes peurs sur ce sujet à quelqu'un? Et où là, moi, je trouve que c'est pas la bonne posture à prendre. Parce que du coup, je deviens la limite de la personne qui est en face de moi. Peut-être qu'elle, en fait, il n'y a pas de sujet sur ce sujet-là. Elle a peut-être des ressources financières dont j'ai pas conscience, une relation à l'argent qui est différente de la mienne, et qui fait que ce choix qu'elle est en train de faire, cette personne, c'est pas perçu pour elle comme une prise de risque. Je trouve qu'il y a quelque chose, c'est laisser la place aussi à la manière dont la personne perçoit ce risque. Ou alors, par contre, si cette personne l'exprime, là, du coup, c'est aller explorer avec elle. Est-ce que là, c'est quelque chose qui, là aussi, est purement de l'ordre de la peur, pas nécessairement quelque chose de... pas de raisonnable, mais de... qui s'appuie sur du concret, et où, du coup, peut-être qu'il y a quelque chose à aller challenger, tu vois, réfléchissons ensemble. Est-ce que ce qui te limite, c'est simplement une crainte par... des raisons X ou Y, et peut-être est-ce qu'on peut en faire quelque chose, ou est-ce que objectivement là ton projet, par les rencontres que t'as fait, par les calculs que t'as fait, il y a quelque chose qui fait émerger un sujet qui a un risque financier. Mmh, mmh. Et surtout, moi, je trouve que la notion de risque, je l'aborde sous l'aspect de... en fait, on ne se questionne pas sur les risques pour voir si on va prendre des risques. C'est pour identifier des risques et du coup, adapter la manière dont on va agir, en fait, pour moins se sentir en prise de risque. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais moi, j'ai jamais mis... Enfin, je pense, j'ai toujours essayé de ne pas mettre des personnes dans une situation de prise de risque. Par contre, j'ai accompagné des personnes à comprendre les tenants aboutissants de la situation par rapport à ce choix, d'identifier si vraiment il y a quelque chose qui fait peur et qui serait une prise de risque. Mmh. Et une fois qu'on a fait ça, bah ok, en fait, quel choix on fait, comment on adapte les choses pour que tu prennes une décision qui soit dans ta zone de confort par rapport à comment tu ressens le risque.
Ah ouais, c'est intéressant. Surtout, je trouve qu'il y a quelque chose où, en fait, un facilitateur ou un accompagnateur, il est à côté de la personne qui mène le projet, mais sans mettre du jus opérationnel et sans prendre ce risque-là. Et donc, je trouve qu'il y a aussi, en effet miroir, une part de la responsabilité. Moi, il y a un truc qui m'a vachement marqué, c'était avec la CCI. Quelque chose de systémique, c'est-à-dire qui allait au-delà des accompagnateurs. Mon accompagnateur de la CCI, il avait 130 dossiers à gérer. Et moi, sur les 8 fois où il m'a accompagné, il en a compté 7 qui étaient des discussions dans des couloirs qui ont duré 3 minutes. Et ça, derrière, c'était parce qu'il y avait un reporting à faire.
Okay.
Et parmi tous les accompagnements qui étaient proposés par la CCI, dans le cadre de Marseille en Grand, c'était des modules de 2 heures sur des thématiques particulières. Propriété intellectuelle, fiscalité, comptabilité, qui étaient toujours les mêmes modules. C'était toujours les mêmes. Et ça durait 2 heures. Et le but de Marseille en Grand, c'était d'accompagner des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui mènent des projets dans des QPV. Il se trouve que moi, j'habite dans une QPV, donc j'avais accès à ce truc-là. Mais je me posais la question de me dire, si jamais j'avais été un jeune qui sortait, je sais pas, de la Busserine à 18 ans, je vais ouvrir un snack, j'ai 2 heures d'accompagnement seulement sur la question de la fiscalité, peut-être qu'on m'envoie dans les roses et que je vais ouvrir mon snack et je vais contracter un prêt. Et puis voilà. Et puis en fait, dans 5 ans, je suis avec une énorme dette. Quelle est la part de la responsabilité de l'accompagnateur là-dedans quand il a 130 dossiers à gérer et qu'en fait, moi, je suis seulement un 130e de son temps?
Bah, du coup, moi, ce que ça me suscite, c'est déjà une prise de hauteur par rapport à ça parce que déjà, j'aimerais bien dire à un moment que j'estime pas être l'accompagnateur parfait et que j'ai tout compris à l'accompagnement. J'ai une manière d'aborder les choses que je partage aujourd'hui et du coup, ce que d'autres personnes, et y compris cette personne, vivent leur manière d'accompagner. Elle est tout aussi pertinente dans certains cas. Mais du coup, pour être intervenu dans différents dispositifs, moi, je me suis surtout rendu compte de la tension qu'il y a dans ces structures entre les demandes des financeurs et ce qu'ils sont en capacité de mettre en œuvre derrière. Et que souvent, quand on regarde, il y a des équipes pédagogiques, des équipes d'accompagnateurs, d'accompagnatrices qui ont des idées, qui ont une réelle envie d'accompagner avec de la qualité, mais où derrière, il y a un carcan, des limitations en termes de moyens, mais des limitations aussi en termes de qu'est-ce qui a été demandé dans l'appel à projet auquel on a répondu. Quels sont les objectifs qui sont fixés, notamment Marseille en Grand, c'était des objectifs qui étaient délirants en fait en termes d'accompagnement, et que chaque personne de chaque structure était ok pour dire qu'on est là pour faire de la quantité, c'est impossible de faire de la qualité, et où du coup ben ça peut pousser en effet à ce que les parcours d'accompagnement se retrouvent à être
je prends le terme, c'est moi qui l'assume.
Ouais, bâclé ou hors sol, tu vois, par rapport aux personnes qui sont accompagnées, parce qu'on peut pas faire du sur-mesure ou en tout cas quelque chose de qualitatif et adapté. Et c'est tout aussi frustrant pour les personnes accompagnées que parfois pour les accompagnateurs et les accompagnatrices.
Pour ça que je parlais de questions systémiques, c'est que moi je mettrais pas ça sur la responsabilité des personnes.
Exactement.
C'est sur un moment tu rentres dans un circuit et le circuit il te pousse à rentrer dans telle ou telle situation.
Ouais. Et ça s'exprime à la fois dans les parcours d'accompagnement individuels, mais ça, je trouve que ça se ressent aussi aujourd'hui, tu vois, dans toutes les structures qui auraient besoin d'accompagnement dans un contexte financier, politique, difficile, bah, que c'est les dispositifs auxquels ces structures peuvent faire appel sont déjà assez limités. Et pour ceux qui existent, ils ont eux-mêmes des contraintes financières qui font que, Ouais, on va pouvoir vous aider, mais dans une certaine mesure, quoi. Et bon, ça pose la question après toujours du financement de l'accompagnement, de la valeur qu'on lui donne, etc. Mais en tout cas, oui, il y a clairement un aspect systémique à... on demande d'un coup, là, sur un coup de tête, de ça paraît bien l'entrepreneuriat, de décider qu'on va accompagner 3000 personnes sur un territoire sans avoir même vu combien de personnes avaient besoin d'accompagnement, sur quelles thématiques, etc. Et où il y a eu, faut le dire, un arrosage d'argent phénoménal sur ces thématiques pendant 3 ans. Là où aujourd'hui, en fait, ça s'est réduit à peau de chagrin. Et où il y a beaucoup moins de possibilités d'accompagnement. Et finalement, on a fait un gros paquet de quantité pendant 3 ans, là où peut-être on aurait pu avoir un impact et un effet beaucoup plus fort à lisser ça sur des années, sur le territoire, enfin sur plus d'années, et sur des accompagnements qui soient plus rapprochés et qui apportent réellement de la pérennité et qui pourraient même répondre aux objectifs de base de ces programmes qui seraient de créer de l'emploi, créer des dynamiques locales, etc.
Ouais, on rappelle que le programme Marseille en Grand, c'était à la suite d'une prise de décision du président de la République, Emmanuel Macron, en août 2021. Dernière question, parce que ça va vite avant la pause. Justement, toi, dans cette pratique-là, tu m'as parlé du fait que tu avais fait une formation en tant que coach professionnel, que tu suivais des formations continues et que tu avais tout un réseau avec qui tu pouvais faire des partages de pratiques pour pouvoir te renvoyer le miroir de ces pratiques-là, continuer à cheminer dans l'évolution de ce que tu proposes, et justement pour éviter de rentrer dans ces écueils. Est-ce que tu veux nous en dire un mot rapidement avant de pouvoir faire une petite pause ?
Oui, je pense que ça, c'est motivé par une chose, c'est déjà, quand on met le doigt dedans, on s'aperçoit déjà de l'infinité de manières, d'outils qu'on peut avoir d'accompagner. Donc déjà, c'est passionnant de continuer à enrichir ces pratiques. Aussi parce que chaque projet, chaque demande fait appel à des outils, à des méthodes différentes. Et donc, du coup, il y a aussi un intérêt à les couvrir. Et parce que moi, je me rappelle qu'il y a un truc qu'on m'a dit dans ma formation de coaching, c'est qu'on est la limite des personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire que si moi j'ai certaines limites sur certains sujets, sur certaines méthodes, en fait, c'est des limites que je vais nécessairement imposer aux personnes que je vais accompagner. Du coup, cet aspect formatif, c'est aussi au service des structures, des personnes accompagnées, parce que plus j'ai la capacité à aller sur différentes choses, plus je peux donner des manières de s'exprimer, de réfléchir ou de trouver des réponses à la personne auprès de laquelle j'interviens.
Merci Thomas, merci pour cette première partie d'émission où on a parlé de la recherche de la fluidité pour toi et comment finalement en fait après tu le transmets pour les autres. On va prendre un petit moment de respiration musicale et je te laisse nous présenter ce que tu as décidé de nous faire écouter.
Ouais, ça s'appelle Décollage, c'est une musique de Fever Corporation. Que je pense écouter chaque matin au réveil. Je vais laisser les auditeurs, les auditrices en profiter.
On se retrouve juste après la respiration. À tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles et nous recevons toujours Thomas Lecy qui est facilitateur pour Ça Facilite avec Alice Etienne. J'ai toujours un peu tendance à vouloir dire Camille Etienne qui est très connue dans le milieu de la transition écologique et sociale. Dans la première partie de l'émission, on a parlé de la question du moi au nous. Et dans cette deuxième partie, on va parler des questions du nous au tout, c'est-à-dire comment est-ce que ton activité participe à transformer la société à son échelle. Par rapport à l'introduction de tout à l'heure, qui était sur des enjeux très stratosphériques, géopolitiques à l'échelle internationale, on peut avoir l'impression d'être complètement dépassé, de se dire que ces enjeux-là sont tellement lointains qu'on n'a absolument rien à faire. Pourtant, tu touches aux mêmes questions, à savoir la question de la gouvernance, entre autres, sur comment est-ce que finalement on peut mettre en place des gouvernances qui sont plus partagées, qui sont plus fluides, face à ce qui est aujourd'hui clairement des rapports de prédation, des rapports impériaux. On peut avoir l'impression que c'est complètement à l'opposé de ce que tu essayes de mettre en place. Tu m'as partagé un état de sidération aussi en regardant ça au quotidien. Toi, tu essaies d'accompagner, c'est pas que tu essaies, c'est tu accompagnes, tu m'as dit, des organisations qui agissent pour le bien commun. Et donc j'aimerais aussi que tu puisses nous partager peut-être à ton échelle sur comment est-ce qu'on peut mettre en place des gouvernances mieux partagées qui sont peut-être des îlots de résistance à l'heure qu'il est.
Ouais. Peut-être même un aspect que je dirais avant, c'est que j'ai pas non plus forcément envie d'être le défenseur absolu des gouvernances partagées. Moi, je suis plutôt du parti pris de... Il y a une gouvernance qui est adaptée à certains projets et pas à d'autres. Parfois, avoir une gouvernance hiérarchique et pyramidale, dans certains cas assez précis, c'est ce qui permet à un collectif de fonctionner d'une manière qui lui paraît efficace et agréable. Mais il y a aussi tout un tas de cas où on peut connaître les dérives et on peut avoir tendance à avoir un a priori négatif sur ces structures-là. Mais plus précisément sur l'aspect des gouvernances...
adaptées.
Ouais, partagées, adaptées, il y a plein de noms différents. Déjà, elles sont intéressantes si ça correspond à une envie du collectif de vouloir fonctionner de cette manière-là. À l'instar de quelque chose qui pourrait aussi être imposé. On peut ressentir comme imposé une gouvernance partagée. Pas tout le monde a forcément envie de prendre cette place dans un collectif. Il y a des personnes qui sont très bien dans des positions de suiveurs, de suiveuses, où on va pas tout le temps me donner mon avis dans les aspects stratégiques, etc.
Et donc, là, moi, je peux donner un exemple.
Hein. Ouais,
clairement, si je me positionne là-dessus, sur la forêt des possibles, en tant que fondateur, j'en ai un rôle de pilote. Et c'est aussi la place que je me suis créée. En revanche, j'aime pas du tout avoir à prendre les décisions tout seul. J'aime bien quand à un moment elles sont sorties de mon cerveau, discutées par d'autres et qu'ensuite la décision soit prise. Mais par exemple, il y a plein d'autres projets, le Super Cafouche, où je suis aussi investi.
Ouais,
mais super les gars, faites-le. Moi, je vais juste mettre des courgettes dans les rayons et ça me va très bien, quoi. On peut aussi avoir plusieurs places en fonction des collectifs dans lesquels on s'investit.
Ouais, complètement. Et moi aussi, j'adore mettre des courgettes dans les rayons chez Super Cafouche. Merci à eux. Et du coup, je trouve que ça illustre très bien. Alors que pour autant, il y a toute une partie de ce collectif-là qui passe du temps de réflexion, de test, à penser la gouvernance d'un projet comme celui-ci. Et là, je trouve que ça met bien déjà en valeur une notion et un écueil qui peut être très courant. Qui est que la gouvernance partagée, c'est on va demander à tout le monde de s'impliquer dans tout. Et où dans bien des cas de figure, cette manière de fonctionner, elle apporte aussi plein de limites. Et que comme tu l'as dit, finalement, d'avoir une partie des personnes qui va pas, qui a la possibilité de s'exprimer, mais qui va pas nécessairement être tout le temps consultée, ça peut être un équilibre qui est très pertinent aussi. Ou comme là, on est Super Facafouch, moi j'aime bien cet exemple-là, il donne souvent la possibilité de venir, de s'exprimer, de prendre une place si jamais l'élan nous en prend, mais c'est pas une nécessité. Par contre, peut-être ça l'est pour certaines personnes qui font partie des groupes de travail, qui sont dans la gouvernance, où là par contre, là il y a quelque chose qui repose sur le fait de leur présence, de leur participation, etc.
Et puis il y a un enjeu lié au cadre. Donc dans une société où les cadres se font marcher dessus, en ce moment, on parle beaucoup de la question de l'état de droit, on parle un peu de la question du droit international qui se fait complètement dévorer par des logiques prédatrices. Le fait de poser un cadre, ça permet aussi une autonomisation. Moi, dans ma pratique de directeur général de la Forêt des Possibles, mon rôle, c'est pas de tout faire et de tout décider. Ça va être de créer des espaces dont je suis gardien, mais avec un gardiennage qui est assumé par d'autres personnes sur des cadres précis ou de manière autonome. Bah, le projet se met en place et tant qu'il n'y a rien à dire, j'interviens pas.
Ouais.
Ça va plus être sur si jamais à un moment il y a une question stratégique, un différend à traiter, ou en tant que gardien, créer l'espace pour qu'il puisse être géré. Et surtout, une fois que la raison d'être est posée, on sait où est-ce qu'on veut aller. Bah, ensuite, c'est ça qui nous mène, quoi.
Ouais, et puis pour aller un peu plus loin par rapport à cette notion de cadre, qui est quelque chose, je pense, qui commence à être assez répandu, le fait de devoir poser un cadre dans une intervention au sein d'un collectif, etc. Mais ce cadre a souvent pour limite le fait qu'on puisse recadrer, que les personnes soient en capacité ou qu'il y ait des dispositifs qui permettent de faire respecter ce cadre. Et dans les exemples que tu prends, pour moi, le souci, c'est pas qu'il y a même internationaux, hein, au niveau des transgressions, pardon, qu'il peut y avoir. Le problème n'est pas un problème de cadre, parce que le cadre, il existe. Mm-hmm. C'est qu'on est rentré dans une certaine situation où les mécanismes qui servent à faire respecter ce cadre, soit ont sauté, soit ne sont plus respectés, en fait. Comme le cas des États-Unis, où finalement, le Congrès, ne fait plus du tout son rôle, n'a plus du tout de rôle d'opposition comme il devrait l'avoir, par exemple. Bon, on pourrait s'interroger sur, en France aussi, où est-ce qu'on en est sur ces sujets-là. Mais il y a le cadre, mais il y a surtout, en fait, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour le faire respecter, pour le maintenir, ou faire en sorte de pointer quand il y a des choses qui en dépassent.
Ça touche aussi à la question de la coopération, de manière assez directe, ce que tu formules. Bon, évidemment, je vais toujours parler d'exemples que je connais. Moi, je trouve qu'en matière de coopération, aujourd'hui, on a fondamentalement intérêt à y aller quand on se rend compte que le risque qu'on prend est encore plus grand de ne pas le faire. Malgré tout, c'est quelque chose de difficile et pas forcément naturel, parce qu'il peut y avoir des questions de rapport de force qui se mettent en place entre finalement la force réel ou supposé que peut avoir une organisation par rapport à une autre, où à un moment c'est une conjoncture d'intérêts, l'intérêt de l'un, l'intérêt de l'autre, qui sont répondus pour qu'elle coopère. Et aujourd'hui on voit que ces très grands rapports de force à l'échelle internationale font que il peut y avoir des coopérations où les États-Unis, typiquement par rapport à l'Europe, ne nous voient plus comme un partenaire. Comment est-ce que toi tu arrives à accompagner ces mises en place de coopérations qui se font sur des intérêts partagés, pour que finalement ça soit au service de tout le monde?
Ouais, ça c'est vraiment je pense que t'es au cœur du sujet. Et où, encore une fois, du coup, mon but est, je pense pas qu'il y ait une manière prédéfinie de le faire, mais quand même, pour moi, elle est comme ta démarche d'aller du moi au nous et du nous au tout. C'est qu'en fait, ces relations de coopération, il y a un moment, elle va se faire entre des personnes, entre des humains, et pour des projets qui ont des besoins et qui ont des valeurs. Et du coup, moi, la première approche que je vois, c'est comment est-ce qu'on, d'abord, on se met d'accord, ou comment est-ce qu'on exprime ou on visibilise les besoins qu'on a, les valeurs qu'on porte, et là où on a envie d'aller. Et du coup, en fait, comment est-ce qu'on voit à l'échelle d'un collectif ou d'un projet, est-ce qu'en effet, en fait, il y a un point qui émerge de coopération, parce qu'on a des besoins communs, des valeurs communes, et du coup, là, a priori, ça ouvre la porte à la coopération. Ou est-ce qu'au contraire, on se rend compte que, ok, il y a de la bonne volonté, il y a de l'entente, mais que peut-être là, aujourd'hui, on est sur des besoins qui peuvent parfois juste être un instant T, ne pas correspondre avec les personnes avec qui on peut coopérer. Et là, c'est du ressort de la structure de voir, là aussi, il y a une notion de prise de risque. Est-ce que, en dépit de ça, on a quand même le besoin de se lancer et on y va en dépit de ça? Ou est-ce qu'on a une marge un peu de progression et dire, ok, notre coopération, soit on la reporte, soit juste on la concrétise pas parce qu'elle est pas pertinente, ou est-ce qu'éventuellement il y a le besoin qu'on lui donne une autre forme pour qu'elle corresponde davantage à ce dont on a besoin et là où on veut aller.
Typiquement pour la forêt, si on utilise cette image-là, parce que ça aide aussi à cette coopération, c'est l'idée de l'arbre permet de poser les besoins individuels. de dire en fait c'est ça mes racines, ça mon tronc, mon écorce, je me protège d'X ou Y sujet. Et l'idée de la forêt après c'est les interactions. Avec ce que ça implique dans le vivant, de parfois de l'hybridation de deux espèces qui se mettent ensemble et qui vont pouvoir répondre conjointement à leurs besoins alors qu'elles ne sont pas capables de le faire toutes seules. C'est le cas par exemple de tout un tas d'algues qui peuvent se situer dans les coraux. Et donc de pouvoir nous aussi se donner ça comme image pour que nous, en tant qu'humains, pour qui c'est pas forcément naturel au premier abord, de se dire peut-être qu'en fait le fait de mettre les choses en commun font qu'on va pouvoir apporter quelque chose que l'autre n'aurait pas et inversement.
Et où c'est là, si je le remets dans le contexte du collectif, c'est il y a deux manières de vivre le collectif. C'est est-ce qu'on est une collection d'individus ou est-ce que on est un collectif qui devient presque une entité à part entière, en fait. Je sais pas si ça fait sens ce que je te dis, mais moi je trouve que c'est des étapes qui sont différentes. C'est, on peut passer de l'individuel à être un collectif d'individus, mais qui peut potentiellement continuer à servir des objectifs individuels. Et après, c'est comment est-ce qu'on est un collectif qui est au service de, et là on est dans le tout, tu vois, c'est comment est-ce qu'on sert quelque chose qui est plus grand que nous. Et qu'est-ce qu'on met en place dans notre collectif où le but n'est pas de gommer les individualités, mais c'est comment est-ce qu'on les mobilise, comment elles se combinent, comment elles s'expriment pour qu'on soit pas, on serve pas juste une collection d'objectifs individuels, mais une cause qui nous rassemble, et comment on se met au service de cette cause-là. Ouais.
Je trouve que c'est en ça que la permaculture, qui ensuite a été appliquée au terme de la permaéconomie, est hyper inspirante. C'est que finalement, la permaculture, ça va être une conjoncture d'intérêts particuliers de plantes qui vont être mises en rapport de hyper compatibles, celle qui a besoin de soleil, celle qui a besoin d'ondes, celle qui a besoin d'azote et celle qu'on produit, et on essaie de faire ce puzzle-là. Et à l'arrivée, ça favorise la productivité de l'ensemble de la parcelle sans perte, tout en tenant, en fait, en maximisant l'intérêt de chacune des plantes. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que finalement, intérêt particulier d'un côté, intérêt général de l'autre, ça peut ne pas forcément être opposé.
Et il y a tout ce que ça sert d'autre, ce que peut-être un effet de bord de ce que tu dis, c'est que potentiellement ça crée du beau aussi, tu vois, cette collection de plantes, etc. Pourquoi est-ce que c'est agréable d'aller se balader dans ce genre de jardin? C'est du résultat de ce que tu viens de dire. Donc au-delà même de l'aspect productif, il y a des choses qui peuvent émerger derrière, qui vont servir et qu'on n'a pas, forcément, c'est pas forcément notre intention initiale, mais ouais, ça peut servir à ça aussi, quoi.
Bah, la question de la beauté, je trouve que c'est effectivement un des points transcendants quand on veut basculer, mais aussi une manière de vivre de manière concrète la question de la justice sociale. Parce que c'est un terme générique, voilà, on est pour la transition écologique et la justice sociale. Ok, ça veut dire quoi? Bah, finalement, est-ce que c'est pas aussi une certaine manière de dire la justice sociale, c'est une manière de pouvoir entendre les intérêts de chacune des parties prenantes et de se dire, bah, ok, maintenant qu'elles sont toutes mises en présence, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, et puis.
Et comment on y répond?
Et là, pour le coup, pour moi, la facilitation, elle a une place primordiale. C'est comment on fait pour mettre les personnes autour de la table, et déjà pour choisir qui on met autour de la table, qui va être pertinent, qui a quelque chose à apporter, à la fois en tant que compétences, connaissances, etc. Ou des fois, c'est simplement la sensibilité, une manière de penser, une manière de, tu vois, même artistique, et qui va amener une manière différente de répondre, là où on peut avoir quelqu'un de très pragmatique. Et au-delà de ça, de comment on a rassemblé les personnes, c'est comment on les met dans un cadre, dans des dispositions qui permettent d'exprimer tout ça. Et que en fait, ben à la fin, j'ai envie de dire, et ça fait des chocs à pic.
Merci pour cette philosophie du soir.
C'est-à-dire qu'on se retrouve en fait avec quelque chose où on a créé quelque chose qui est pas juste l'expression de ces personnes individuelles, c'est que la personne artistique a nourri la réflexion de la personne pragmatique et vice versa, et on arrive à quelque chose en fait qui est la combinaison de ces différentes manières de penser, d'aborder les choses. Et c'est là que je pense qu'on peut créer des choses novatrices et qui répondent peut-être à des nouveaux besoins ou à nos enjeux actuels.
Avant-dernière question, parce que le temps file et que ça pourrait durer des heures. Quelle est la place de l'arbitrage là-dedans? Je m'explique. Quand on fait de la permaculture, il reste malgré tout un jardinier. On m'a souvent fait cette réflexion de se dire oui, mais en fait, une forêt, il y a aussi des gardes forestiers. Alors, on peut avoir la forêt primaire qui, elle, s'est à pousser sur un temps extrêmement long. Malgré tout, parfois sur des intérêts en présence, il peut y avoir une grande disparité d'intérêts avec des gens qui ont des intérêts énormes et ceux qui, enfin, ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien, pour reprendre les expressions horribles d'Emmanuel Macron. Il peut y avoir des grandes disparités. Est-ce que toi, à un moment, tu as un rôle aussi où tu peux trancher en disant, mais en fait, c'est pas juste, parce que là, il y a des intérêts qui sont trop disparates.
Waouh. Je m'attendais pas à cette question à quelques minutes de la fin de notre entretien.
Peut-être que tu as le droit aussi de dire ça mérite une réflexion entière une prochaine fois.
Non, mais je dirais que spontanément, moi, j'aurais tendance à me retirer de cette notion d'arbitrage parce que, bah, tu l'as dit, en fait, un garde forestier, il est garde forestier parce qu'il a une expertise sur le sujet de la forêt. Moi, quand j'interviens auprès d'un collectif, a priori, j'ai pas l'expertise. Donc, quelle est ma légitimité à trancher sur un sujet qui est dans leur sphère de maîtrise et d'expertise? C'est rarement le cas. Donc, j'aurais plutôt tendance à peut-être mettre le doigt sur le fait qu'en effet, il y a peut-être besoin de ce rôle-là. Mmh. Et après, de voir à eux qui va le prendre.
Tu disais tout à l'heure que la limite des gens que t'accompagnais, c'était ta propre limite.
Exactement.
Donc là, le fait de dire j'ai pas l'expertise, c'est bien de le formuler. Dernière question. Tout à l'heure, quand on préparait l'émission et que je te demandais à quoi ressemblerait ton métier dans le futur, tu disais que tu aspirais à devenir inutile. Étonnant.
Ouais. Oui, j'ai une aspiration à devenir inutile parce que ce que je propose en tant qu'intervenant, ça n'est que entre guillemets des compétences de posture, d'outils, et que on a vraiment cette volonté avec Alice chez Ça Facilite de aussi, quand on intervient, de transmettre les méthodes ou les manières qu'on a eues de concevoir nos déroulés au maximum aux personnes auprès desquelles on intervient pour leur donner de l'autonomie. Si dans toutes les structures il y avait un facilitateur, une facilitatrice, il y a plein de choses qui pourraient émerger de manière plus fluide, qui pourraient s'organiser de manière plus fluide. Et du coup, moi mon idéal c'est un monde, on va dire, où dans chaque organisation il y a ces compétences en fait en interne, et finalement faire appel à moi, peut-être que c'est quelque chose de vraiment très ponctuel quand on a vraiment ce besoin d'un regard extérieur, mais sinon pour le reste du temps, tant mieux si d'autres personnes arrivent à s'en charger.
Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup pour cette présentation passionnante, et j'étais en train d'appeler Sidi, notre régisseur, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de bien vouloir enregistrer cette émission ce soir. On aurait pu continuer encore pendant des heures. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est une émission que vous pourrez retrouver demain en rediffusion de 9h à 10h sur Radio Galère, et puis évidemment sur Spotify et sur Deezer. Merci Sidi, merci à toutes et tous, et puis très belle soirée.
Merci.